J'attends que les derniers soient assis aussi. Et j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le frère Philippe Lefebvre, dominicain, donc prêtre, mais je dis frère, et c'est pas Philippe que ça va gêner. Philippe Lefebvre est professeur d'Ancien Testament à l'université de Fribourg en Suisse, donc il a fait un long voyage pour nous rejoindre. Il travaille ses textes depuis de très longues années. Et j'ai dit de revoir la façon dont il lit les textes bibliques. Et en discutant hier soir avec lui, j'ai peut-être... Vous m'entendez pas? Je recommence? Voilà. Je disais donc que j'ai toujours dit qu'il est professeur d'Ancien Testament à l'Université de Fribourg. Et ça fait longtemps qu'il travaille ce texte-là, et j'ai toujours beaucoup aimé ses analyses bibliques. Et en discutant hier soir avec Frère Philippe, j'ai peut-être compris enfin pourquoi je trouvais qu'il y avait toujours chez lui une liberté extraordinaire. C'est qu'avant de devenir dominicain, il était professeur de lettres classiques, à l'université. Et du coup, il regarde les textes bibliques d'abord comme des textes littéraires. et non pas d'abord pour y trouver un dogme ou un quelconque message théologique. Je pense que ça donne en fait une autre approche de la Bible. Alors, Philippe a publié beaucoup de livres. Je pense que vous trouverez dans la librairie un petit livre qu'il a fait dans une série qui s'appelle « Ce que la Bible dit sur... » Et lui, c'est sur le vin. Il en a fait un aussi sur la famille. Donc, je ne sais pas s'il ne rentre pas dans notre programme. Donc, peut-être que ça n'y est pas. Et puis, Philippe est aussi quelqu'un qui, depuis longtemps, s'est engagé dans la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Ce qui lui a valu aussi de sérieuses inimitiés. Et il a publié aussi un livre qui s'appelle « Comment tuer Jésus ?» pour montrer aussi comment dans la Bible on peut lire toutes les questions d'emprise et d'abus. Et puis, bien évidemment, mais ça, vous savez tous que vous pouvez lire régulièrement Philippe dans la vie. Ça va de soi, je n'avais pas l'impression qu'il fallait que je le rappelle. Mais tu fais bien de me le dire, René. Et donc, dans le cadre de notre thème, se nourrir demain, produire, consommer, partager, on est dans la journée de la consommation, et Philippe a voulu intituler son intervention, qui va être le parcours biblique sur l'oralité, parole succulente et merci mangeable. Alors quand j'ai vu le titre, j'ai dit, bon, là, je m'assois pour écouter parce que je ne sais pas ce que tu vas mettre derrière cela. Je donne la parole.
Merci, merci beaucoup Monique pour cette présentation. Est-ce que vous nous entendez? Ça va? Dès que ça ne va plus, vous poussez des cris désespérés. Et donc merci de m'accueillir ici. Dans la vie, je me suis aperçu que j'écris depuis 99. Ça fait... Eh oui, j'avais 3 ans quand j'ai commencé. Voilà. Donc merci de m'accueillir. Et alors, vous recevrez aussi des pages, vous les avez peut-être reçues. Donc j'ai fait 4 pages sur ce que je vais dire. Je ne dis jamais exactement ce que j'ai écrit et réciproquement, mais ça ne fait rien. S'il y a des choses qui échappent, des mots qu'on n'a pas entendus, vous aurez en gros dans ces 4 pages que vous recevrez, disons l'essentiel de ce que je voudrais dire aujourd'hui. Et je voudrais commencer peut-être par enraciner davantage ce que je veux dire dans le thème, la production, consommation, partager. Ce sont vraiment des thèmes bibliques. Vous savez, manger dans la Bible, c'est fondamental, parce que c'est fondamental dans notre vie. Et d'une certaine manière, c'est ce que je passe mon temps à dire ça en cours, la Bible s'est faite de quelques scènes types qui vont sans cesse revenir avec toutes sortes de paramètres différents. Et par exemple, qu'est-ce qu'on va manger? C'est une grande question depuis le début. Souvenez-vous de Genèse 3, on peut manger tout dans le jardin sauf un arbre, évidemment c'est ça qu'on va manger. Est-ce que ça veut dire que Dieu interdisait cet arbre? Pas du tout, pas du tout du tout. Donc là, c'est une petite introduction rapide que je fais comme ça, mais vous savez, le premier mot que Dieu dit aux humains dans la Bible qu'il vient de créer, c'est dans Genèse 1, au verset 28, le tout premier mot que Dieu dit aux humains, c'est « fructifier ». Ce qu'on traduisait autrefois par « croissez, multipliez-vous », on était tellement angoissés, s'il a créé un homme, une femme, d'ailleurs il n'a pas créé un homme, une femme, il a créé un mâle et une femelle, femme et homme, dans cet ordre-là, ça ne vient qu'au chapitre 2, pour ne pas brûler les étapes, il y a même un petit livre de Jean-Paul II qui s'appelle « Homme et femme, il les créa », et c'est un peu une hérésie biblique, justement, lors de la création, c'est mâle et femelle, et il y a tout un développement, tout un parcours qui arrive à femme d'abord et homme. Enfin, c'est toute une histoire dont on ne va pas parler maintenant. Mais vous savez qu'on peut tout manger dans le jardin, donc, sauf un arbre, c'est bien sûr cet arbre-là qu'on va essayer de manger. Alors on dit, ah bah oui, Dieu, c'est l'interdit, patati patati. Bon, enfin, c'est tous les baratins qu'on dit. Non, Dieu n'interdit rien, mais il signale que tout n'est pas à prendre comme ça. C'est-à-dire, il y a des éléments dans la création, des réalités de la création. Il faut prendre du temps pour savoir ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire, tendre la main vers ce fameux fruit, hein? Et comme Dieu a dit aux humains d'abord fructifier, c'est une manière de leur dire tout de suite, c'est le premier mot qu'il leur dit, chapitre 1, verset 28, je répète, ça veut dire le fruit, ben c'est vous qui allez le porter. Il n'est pas question d'emblée de piquer un fruit quelque part et de l'ingurgiter. Vous allez fructifier. Ah, mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez vous enraciner. Mais dans quoi? Dans qui? Ben, c'est le travail de toute la Bible. On s'enracine en Dieu. Hein? C'est un vrai thème biblique. Hein? Pensez au psaume 1. Heureux l'homme qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Ah, voilà. L'arbre planté. Et on va le retrouver partout pour désigner l'humain enraciné dans la parole de Dieu. Et qui va, c'est ça le fruit, ce que Dieu et nous, nous donnons quand nous travaillons ensemble. Hein, je vais vite en besogne, je dis déjà un peu la fin de tout un parcours qu'il faudrait faire sur fructifier, mais le fruit dans la Bible, qui peut être de nature extrêmement différente. Ça peut être un enfant, par exemple, pour une femme qui ne peut pas en avoir. Un enfant, c'est un fruit. Hein. Rachel, c'est le chapitre dans la Genèse, le chapitre 30, le verset 2. Rachel est stérile, elle dit à son mari, « Donne-moi des fils, sinon je meurs. » Et son mari lui répond, « Jacob, est-ce que je n'y peux rien ?» tant que le Seigneur retient de toi le fruit du ventre. Et puis elle va engendrer, enfanter un jour un fruit qui sera Joseph, etc. C'est toute une histoire, mais l'enfant impossible désigné comme fruit, c'est très important. Pensez à Jésus, première fois qu'un humain dans l'évangile de Luc désigne Jésus, c'est Élisabeth à Marie, « Béni soit le fruit de ton ventre ». Et Jésus, c'est vraiment un fruit obtenu par l'union de Dieu et d'une femme qui est entrée dans ce mouvement que Dieu lui proposait. Et c'est ça le fruit. Hein, encore une fois, ça pourrait être illustré par mille textes, on ne va peut-être pas le faire juste maintenant. Mais ce fruit mangeable, c'est tout ce que nous produisons avec Dieu. Donc on est au cœur. Si vous voulez, de ce thème, hein, produire, consommer, partager, ben oui, produire avec Dieu dans le terreau divin, hein, ça va devenir un grand thème, vous savez, de la mystique chrétienne, notamment chez les Rhénans, les Allemands, être enraciné dans le sol, Dieu comme un sol, Grund en allemand, où on plonge ses racines pour produire un fruit, consommer évidemment, mais justement. Demain à la messe, on lira quelques textes qui montrent la consommation, c'est pas se jeter sur la bouffe, c'est entrer dans un mouvement aussi d'attente, de partage, de prise de conscience de ce que l'on fait, et puis partager évidemment, c'est-à-dire tout ce qui vient de Dieu et de Dieu avec nous, en quelque sorte, c'est destiné au partage d'une manière ou d'une autre. Donc on est. Je dirais dans beaucoup de textes bibliques, en plein dans le mille du thème qui est peut-être le thème qui est en plein dans le mille de la Bible, mais c'est vrai aussi. Donc je voudrais faire un petit parcours, alors rapide, et je ne vais pas dire tout ce que je dis. Moi, donc comme je vous l'ai dit, je ne dis jamais exactement ce que j'ai écrit, donc comme ça vous aurez deux trucs, un texte écrit, voilà. C'est deux pour le prix d'un, ça serait dommage de ne pas y aller. Bon, voilà. Donc je voudrais dire, partir de, justement pour les chrétiens de ce qui est central, c'est-à-dire le geste eucharistique, hein, prenez et mangez, ceci est mon corps, sous l'espèce du pain et du vin, c'est quand même très central, donc nous sommes exactement là dans la consommation d'un mets très étonnant. Vous savez que dans la Bible, une des plus anciennes lois de la Bible, qui reparaît plusieurs fois dans le Lévitique par exemple, au chapitre 3 je crois et ailleurs, c'est l'interdiction de boire du sang. hein, animal et encore moins humain. Hein, les juifs pieux aujourd'hui, quand ils mangent de la viande, font sortir le plus de sang possible pour obéir à cet interdit. Donc ne pas boire de sang. Le geste eucharistique, prenez et mangez, ceci est mon corps et mon sang. Ah, qu'est-ce qu'on fait, cher? Ça, c'est ce que j'attire souvent l'attention là-dessus sur la Bible. La Bible, c'est comment on va faire d'une certaine manière ce qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut pas boire de sang, mais il y a un type qui va vous dire, si, il faut boire, mais mon sang. Ah bon? Voilà. Et, vous voyez donc, quand on dit, ah, mais la Bible interdit ceci, du calme. Je pourrais raconter bien des anecdotes là-dessus où quand un chrétien arrache un verset pour dire « Ah voilà, Dieu interdit ceci », oui, mais par exemple sur le mariage pour tous, j'ai dit « Bon, oui, interdiction d'un homme de coucher avec un autre, ok, quelques versets plus loin, un homme peut avoir 4 femmes, est-ce que vous êtes aussi d'accord ?»« Ah non, bah, c'est dans la Bible, c'est bon. » Alors voilà, donc on pourrait multiplier tous ces exemples, évidemment, ça veut dire qu'on n'est pas dans une sorte de mode d'emploi où on peut tirer un petit peu au hasard le verset qui nous arrange au moment où ça nous arrange. Hein. C'est autre chose et c'est ça qu'on appelle la lecture, justement. Entrer, écouter un texte et puis se laisser déplacer et peut-être mettre dans des périmètres de sens qui ne sont pas simplement permis, défendu ou vrai-faux ou blanc-noir. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, comme l'est la parole et comme l'est aussi le fait de manger. Alors, je voudrais aujourd'hui focaliser, si vous voulez, mon propos sur l'oralité, puisque la bouche, c'est à la fois là où on mange, où la nourriture entre, et c'est aussi là d'où la parole sort. Et je crois que dans la Bible, où on fait très attention à l'humain créé par Dieu, la Bible pense ça. Qu'est-ce que c'est que cet organe et puis toute une suite d'organes avec, de structures internes du corps créé. Qu'est-ce que c'est donc que cette bouche, d'où sort la parole et où entre la nourriture? Et je crois que c'est, quand la Bible réfléchit là-dessus, c'est pas pour dire, tiens, c'est amusant, mais bon, ça n'a pas tellement de rapport, manger son bistec ou parler, c'est pas la même chose. Bah, peut-être que ça a à voir, en tout cas, puisque le siège des deux, c'est la bouche, au moins ça passe par la bouche comme lieu essentiel. Et on va voir dans la Bible se développer cette idée que la parole de Dieu, elle est à manger. Et que quand tu manges, peut-être c'est ça qui te fait parler. Et voilà, et je voudrais me focaliser là-dessus et notamment essayer de parler un peu du Messie, justement. Déjà dans l'Ancien Testament, vous savez, il y a des rois Messie, Saül, David, et je vais essayer de montrer, le texte le porte bien, que déjà dans l'Ancien Testament, le Messie est proposé comme aliment. Ça veut dire on attend sa parole et on attend son corps. Mais c'est une histoire d'Ancien Testament déjà. Vous voyez, quand Jésus établit l'Eucharistie, ce n'est pas un truc qui lui est venu comme ça. Bah, tiens, je vais faire un truc avant d'être crucifié, ça va être rigolo. Non, c'est évidemment, il y a 40, 50, 100 textes bibliques qui donne tout son poids à ce geste étonnant, et puis à cette idée de manducation d'un corps. Alors, sur l'espèce du pain, etc., donc ce sont évidemment des réalités complexes, c'est bien, et moi c'est ce que je propose souvent dans la vie, de faire des parcours bibliques, pas trouver un texte ou un verset, puis bon, d'accord, ça doit être lié à ça. Non, c'est plutôt des méditations et qui commencent tout de suite, c'est-à-dire Genèse 2, on est dans un jardin immense, magnifique, il y a un arbre, peut-être deux, hein, l'arbre de la connaissance et puis l'arbre de vie, il ne faut pas prendre les fruits, Genèse 3, on va prendre les fruits. Donc, le serpent, c'est toujours celui qui dit « Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à penser, il n'y a pas à réfléchir, faites-le, vous en avez envie d'ailleurs, alors allez, non. » Voilà. Et donc, la lecture de la Bible, c'est ça, justement, ne pas consommer abusivement la parole, l'écouter, la laisser venir, la laisser... interagir avec nous, avec les groupes où nous sommes, la laisser éventuellement nous scandaliser, nous heurter, nous laisser perplexes, et voilà. Et là, on se met dans une attitude de peut-être de manger cette parole, qui comme quand on mange, tout le monde sait ça. Il y a quand j'étais petit, il y avait des trucs que j'aimais pas, comme tout le monde. Et puis ah bah si mange, c'est bon pour toi. Bon. Enfin, c'est pas très bon, mais c'est bon pour moi, alors bon, d'accord, on va le faire quand même. Et la Bible, c'est un peu ça aussi. Enfin, la Bible est tout texte qui est vraiment un texte, c'est-à-dire ça s'écoute, ça se médite, ça se... Et c'est pas tout de suite qu'on comprend et on peut être heurté. Et il y a beaucoup de versets bibliques qui nous heurtent d'ailleurs. Il y a 2-3 semaines, l'évangile du dimanche, c'était Jésus disait « Si ton œil te pousse au péché, tu l'arraches ». Je dis ça aussi souvent aux gens qui disent « Oui, à ce verset, donc je suis contre tel truc. » Bon, bah, arrachez-vous les yeux. Vous n'avez jamais eu le regard qui s'est un petit peu porté sur ce qu'il ne fallait pas. Vous n'avez jamais eu la main qui a peut-être été un peu trop... bon, bah, il faut les arracher. Jésus dit « Coupez-vous la main, le pied et les yeux. » Donc, faites l'exécution. « Ah non, mais c'est pas comme ça. » Voilà. Donc, tout le monde sait, quand on est acculé à des choses comme ça, que évidemment, le texte n'est pas une sorte de mode d'emploi à appliquer tel quel et sans réfléchir. Hein. Ça demande toujours, et c'est ce qu'on appelle justement la parole. Donc, je voudrais partir de Genèse 1 et des tout premiers versets, hein, quand Dieu va créer. Et vous savez que le premier chapitre, Dieu dit que la lumière soit... que le troisième jour, que la terre produise de la végétation, des arbres qui portent du fruit, etc. Vous vous souvenez ce qu'on lit tous les soirs de Pâques, la cérémonie de Pâques de la nuit. Et je me suis dit, mais c'est curieux ça. Dieu dit que la terre produise de la végétation, des arbres qui portent du fruit, et il en fut ainsi. La terre produisit de la végétation. Mais pourquoi Dieu a besoin de parler? Moi, ça m'a toujours fait penser à ma mère. Ma mère disait toujours, bon, maintenant, je vais faire une lessive, après, j'irai fait le ciré et l'escalier, après, il y a ta tante qui va arriver, le vent, etc. Et puis, elle le faisait. Et je lui ai dit, ça ressemble à ma mère. Non, mais Dieu est le créateur et il a des incohérences. Et en fait, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de dire ce qu'il va faire? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas? Pourquoi on ne me dit pas? Alors Dieu, le premier jour, créa la lumière, et puis il créa l'eau, et puis il créa les arbres. Parce qu'il fait sortir sa parole. Il fait sortir son verbe. Et vous savez, la fin des versets, c'est toujours tous les jours de la création. Et Dieu vit que cela était bon. Bah, on a envie de dire, évidemment, c'est lui qui l'a décidé. Là, c'est comme si c'était le patron qui venait voir. Ah ben oui, ma parole a vraiment bien exécuté. Je suis assez content. Et à la fin, je suis très content. C'est très bon. C'est-à-dire, dès le premier chapitre, on a l'étrange impression que la parole que Dieu profère, il faut qu'il la profère, il fait sortir sa parole, et c'est la parole qui va opérer, c'est le verbe de Dieu qui va accomplir la volonté de Dieu jour par jour, et à la fin, Dieu voit, ah oui, c'est vraiment très bien. Et ça va être un grand thème biblique dans toute la Bible, cette parole, hein, je citais quelques textes dans les feuilles, vous le verrez, mais dans Isaïe, par exemple, Isaïe 55, hein, de même que la pluie tombe sur la terre, irrigue et puis remonte sous forme de rosée ou d'évaporation, vous vous souvenez de ce texte, de même Dieu envoie sa parole qui accomplit toute sa volonté sur la terre avant de revenir vers Dieu. Donc la parole, dans beaucoup de textes, et quelquefois des textes anciens, c'est pas simplement un bruit de la voix de Dieu, c'est une personne sortie de Dieu qui accomplit le vouloir de Dieu. Et sorti de la bouche de Dieu, comme beaucoup de textes vont nous le dire, sorti de sa bouche pour créer, pour accomplir sa volonté, et pour, en quelque sorte, être mangeable par ceux qui vont la recevoir. Parce qu'il y a dans la Bible tout un thème très important du bouche à bouche avec Dieu. C'est-à-dire la parole sort de Dieu, elle vient rejoindre ma propre parole et transforme cette parole. Si vous avez lu l'histoire de Moïse, tout début de son histoire, au chapitre 3 en particulier du livre de l'Exode, donc il y a l'enfance de Moïse, le bébé dans le couffin flottant, l'adoption par la fille de Pharaon, la seule personne chez qui il ne fallait pas aller, c'est là qu'on va, hein. Pharaon veut tuer les gamins, ça c'est la Bible, hein. Là où il ne faut absolument pas aller, ce qu'il ne faut absolument pas faire, on va le faire et on va y aller, parce qu'il y a quelque chose à vivre là avec Dieu. C'est comme l'incarnation, non, il faut, Seigneur, il ne faut pas vous incarner parce que c'est pas... Donc il va le faire. Voilà. Et donc, la parole sortie de Dieu, sortie de la bouche de Dieu, va venir rejoindre notre bouche en quelque sorte et entrer en nous comme une nourriture. Et ça, pour moi, c'est un thème, mais où il y a des dizaines et des dizaines d'exemples dans la Bible. Et un grand exemple, je parlais de Moïse tout à l'heure, donc à partir du chapitre 3, quand Moïse rencontre Dieu à ce fameux buisson ardent, vous savez qu'au début, alors il est très respectueux, Dieu lui dit, voilà, je vais sauver mon peuple, oui, oui, c'est bien, j'ai entendu sa misère, sa détresse, oui, dit Moïse, c'est bien, et je vais t'envoyer toi, Moïse, non, c'est pas bien. Vous voyez, alors Dieu s'est présenté, je suis, vous savez, je suis qui je suis, et quand il demande juste après à Moïse d'aller parler, Moïse lui dit, non, moi je ne suis pas un homme de parole, je ne suis pas un homme qui sait parler. Donc Dieu c'est je suis, et Moïse tout de suite, moi je suis, c'est je ne suis pas, oh non, je ne suis pas, je ne suis pas là, je ne suis pas, je suis aux abonnés absents, hein, donc, et bon, vous savez que Dieu va éduquer Moïse, et j'ai écrit des petites choses sur l'aspect orthophonique de Dieu qui va éduquer Sissi, mais vraiment, vraiment, tous les débuts de livre après, c'est Dieu fit venir Moïse dans la tente du rendez-vous pour lui parler et lui mettre ses paroles dans la bouche. Et c'est vraiment, vous voyez, l'orthodoxie, hein, c'est aussi, ça va avec l'orthophonie. Et ça veut dire que tout ça est incarné. Je ne dis pas ça simplement pour plaisanter, même si ça fait sourire, tant mieux, mais c'est ça. Et vous savez, le dernier livre du Pentateuque, donc c'est le livre du Deutéronome, qui commence par ces mots, « Voici les paroles de Moïse ». Et tout le Deutéronome, c'est les paroles de Moïse, qui deviennent paroles de Dieu. Vous voyez, un gars qui a commencé par dire à Dieu « Non, je ne sais pas parler », ben, la bouche de Dieu l'a éduqué, Dieu a éduqué Moïse, et finalement, le dernier livre du Pentateuque, c'est les paroles de Moïse. Voyez, donc il y a un bouche à bouche qui est très intéressant, et vous savez, dans le dernier chapitre du Deutéronome, le petit chapitre 34, qui est la fin du Pentateuque, Moïse meurt, et on dit le mot à mot, il mourut, Moïse, sur la bouche du Seigneur. Alors on traduit, oui, ici bouche, ça veut dire sur l'ordre du Seigneur ou selon ce que le Seigneur avait dit. Mais vous savez, il y a des targoum, donc c'est des traductions en araméen, qui ajoutent des petites choses pour faire comprendre certaines formules de la Bible hébraïque. Il y a des targoum qui disent, Moïse mourut sur un baiser de la bouche du Seigneur. On ajoute un baiser pour bien qu'on entende. Non, ce n'est pas une expression vague pour dire Moïse mourut selon l'ordre du Seigneur ou comme le Seigneur avait dit. Il meurt sur la bouche de Dieu. Il y a une coïncidence de la bouche de Moïse et de la bouche de Dieu. Voyez, donc ce gars qui ne savait pas parler au début, ben, il y a eu tout un travail et on comprend au fil des pages qu'il a absorbé cette parole. Pourquoi la bouche de Dieu, pourquoi la parole sort-elle de la bouche de Dieu, pour rejoindre notre bouche et pour qu'on la mange, qui est un thème biblique, alors là, fondamental dans la Bible, manger la parole qui sort d'une bouche pour entrer dans la nôtre. Quand Jésus dira, et il rappelle en cela, il cite un verset du Deutéronome, quand Jésus dira au diable au désert, le diable qui dit je peux lui donner à manger après 40 jours de jeûne de Jésus, et Jésus dit, il est écrit, Deutéronome, je ne sais plus quel chapitre, 6 peut-être, je ne sais plus, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça ne veut pas dire que le pain, la nourriture, c'est pas bon. Non, non, ça veut dire que c'est très bon. Et une nourriture, peut-être la première, c'est la parole de Dieu. Hein, et dans le Deutéronome, c'est ça que ça veut dire. C'est pas l'alternative. Soit c'est on mange, soit on parle, on écoute la parole de Dieu. Non, on mange la parole de Dieu. Donc Jésus répond au diable, attention, tu fais une mauvaise exégèse. La parole, elle est nourrissante. Donc il faut compter la parole parmi les nourritures. Et donc c'est très très important et c'est très permanent dans la Bible. Voyez. Donc ce qui sort de la bouche de Dieu, l'oralité, rejoint notre propre oralité à la fois pour manger et pour parler. Et je brûle bien des étapes, et peut-être on y reviendra une seconde, mais l'Eucharistie, c'est ça. C'est pas la parole qui nous. C'est la parole sous l'espèce du pain et du vin qui va nous nourrir. Et c'est le corps. Et c'est quand même très. Et puis il y a des paroles à dire. La messe, c'est ça. S'il n'y a pas les paroles, c'est invalide. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose qui sort de notre bouche, mais qui vient de la bouche du Christ et qui transforme une nourriture, mais qui reste une nourriture, qui devient corps par la parole. Donc, il faudrait bien sûr développer tout ça, y penser et méditer longuement, mais vous sentez bien que cette oralité, hein, la bouche comme lieu de la parole et lieu du manger, de la manducation, c'est extrêmement important et de la part de Dieu, ça se transmet, c'est-à-dire ce que Dieu transmet par sa bouche rejoint notre bouche et nous nourrit. Alors, je voudrais donner quelques exemples là-dessus. Il y en a tellement que, bon, voilà, vous verrez ça dans les petites feuilles. J'ai parlé tout à l'heure de Isaïe 55, hein, versets 10 et 11, la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui revient à lui après avoir fécondé le monde. La sagesse, ça c'est un personnage de la Bible très intéressant, très important, la figure de la sagesse. Vous savez, dans le livre des Proverbes, c'est au chapitre 8, à partir du verset 22, hein, Proverbes 8, 22 à 31, il y a un personnage qui parle, mais qui est déjà apparu avant dans les Proverbes, dès le chapitre 1. Et la sagesse est une personne, et voici ce que dit la sagesse. Elle dit, moi, j'ai été enfanté par Dieu avant tous les siècles. Ça ne vous rappelle pas un petit pixel, ça, dans le credo? Bon, le credo, évidemment, s'inspire de ça. Dieu m'a enfanté, elle le dit deux fois. Elle est née de Dieu et elle vient dans le monde, je vais citer d'autres choses après, puisqu'elle est sortie de Dieu par sa bouche, comme elle le dit, mais je vais y venir dans une seconde. Et elle vient, là encore, dans le même pour habiter notre bouche et notre être tout entier, pour être mangé. Vous voyez ? Donc, il y a, dès l'Ancien Testament, l'idée que la parole, c'est pas seulement un souffle comme ça et une voix qui sort, mais immatérielle. La parole, c'est quelqu'un. Hein ? De même que ma parole, on l'a lu avant, sort de ma bouche pour accomplir ma volonté et revient à moi, hein, Isaïe 55, et bien ça va être pensé, orchestré, développé dans l'Ancien Testament. Donc Proverbe 8, versets 22 à 31, la sagesse qui a été enfantée par Dieu vient parmi les hommes pour parler et jouer avec eux, ça c'est magnifique, au verset 30. Hein, elle danse avec nous, c'est très beau. Et cette personne enfantée de Dieu, cette sagesse, elle dit aussi, ça c'est le Siracide, le chapitre 24, qui est un chapitre essentiel, hein, la sagesse de Ben Sirac, où, comme on disait dans la paroisse, c'était toujours le même monsieur qui le disait, qui était là, il disait « ben tirage ». Bon, et ça fait rien. Il avait comme ça plusieurs erreurs qui, d'année en année, se... Et donc, Ben Sirac, au chapitre 24, met en scène la sagesse. Et la sagesse dit « Moi, je suis issu de la bouche du Très-Haut ». Et elle explique pourquoi elle est sortie de la bouche du Très-Haut, ben pour venir parmi nous et pour nous nourrir. Vous voyez ? Donc, il y a ce bouche-à-bouche permanent avec Dieu, pas seulement Dieu qui insuffle son souffle vital en nous, c'est pas seulement le souffle, hein, c'est ce qu'il fait pour Adam en Genèse 2, il souffle, il insuffle, donc il y a un bouche à bouche au point de vue du souffle, mais la parole est aussi sortie de Dieu, entre en nous, et il faut la manger, cette parole, et pour pouvoir parler à notre tour. Hein. Il y a un très beau verset, c'est dans le Deutéronome, au chapitre 6, et c'est le verset 7, où Dieu dit « Mes paroles, tu les répéteras, tu les inculqueras à tes enfants. » Oui, c'est ça, tu les inculqueras à tes enfants, et tu... Alors on traduit « tu les répéteras ». Le texte hébreu dit « tu les inculqueras à tes enfants, et tu... tu parleras au moyen d'elle. Mes paroles, tu parleras au moyen d'elle. Dibalta bam. Tu parleras au moyen d'elle. C'est la traduction. Alors on traduit par autre chose parce que ça fait bizarre. Mais ça veut dire que, et le Deutéronome c'est tout un thème, ce que Dieu dit, je l'intègre, je l'ingurgite pour pouvoir un jour parler au moyen de ces paroles. C'est-à-dire que ma conversation soit comme innervée ou assaisonnée, voilà, pour prendre un terme culinaire, par la parole de Dieu. Et ça, vous voyez, on est toujours ça, ce qui sort de la bouche de Dieu, sa parole vient en nous pour ressortir de nous. Donc c'est une parole de nous, mais de nous avec la parole de Dieu, et ça transforme les choses. Et ça s'entend quelquefois. Hein, il y a les baratineurs, et puis, il y a ceux qui disent quelque chose et tiens, ça vient d'où, ça ? Qu'ils soient chrétiens ou pas, hein, c'est bien entendu. Donc, on pourrait longuement développer tout ça. Et je voudrais encore citer, j'aurais dû le faire tout à l'heure quand je parlais des proverbes, de Proverbe 9, hein, il y a 8 et 9 qui sont le grand passage dans les proverbes de la sagesse, Proverbe chapitre 8, chapitre 9, où la sagesse dit, donc cette sagesse sortie de Dieu est venue parler avec nous, elle dit, la sagesse, au chapitre 9, « Venez manger, j'ai préparé du pain, du vin, des animaux de sacrifice, et venez manger », c'est-à-dire ce qui sort d'elle, la sagesse, c'est une parole qui nourrit, et c'est le festin de la sagesse, festin de parole. Hein. Et on pourrait vraiment arpenter la Bible pour étayer encore ça davantage. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure Moïse, qui est un beau personnage à suivre justement sur cet homme qui s'emplit de la parole de Dieu et qui la restitue, mais c'est la parole de Moïse, hein, le début du Deutéronome, voici les paroles de Moïse, et quand on le lit à la messe, par exemple, on dit, voici la parole du Seigneur. Ah bon, mais c'est pas la parole de Moïse, ben c'est tout, hein. C'est, voilà, Moïse éduqué par cette parole qu'il a avalée, qui habite en lui. Et il y a beaucoup de textes comme ça qui pourraient être nourrissants pour notre réflexion. Par exemple, toujours avec l'histoire de Moïse, au chapitre 16 de l'Exode, il y a cette fameuse manne. Vous savez, Dieu qui donne tous les jours, il dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du ciel un pain mystérieux. Donc, Exode 16. Et ce pain quotidien, c'est la manne que le peuple va manger. Et donc, on aurait pu dire, Dieu, il a fait aussi venir des cailles, parce que le peuple avait envie de cailles. Bon, ok. Mais il aurait pu, je ne sais pas, faire tomber du ciel chaque jour le menu du chef, le menu du jour, par exemple. Aujourd'hui, ça va pleuvoir du rôti de porc, ah ben non, pas de porc, de vache, avec des chips. Non, c'est la manne. Alors le livre, c'est le chapitre 18 du livre de la sagesse, dira « Ça avait le goût que chacun aimait le plus. » C'est Catherine de Sienne qui reprendra ça pour parler de la parole de Dieu. Ça a le goût que tu aimes le plus. Bon. Mais peu importe pour l'instant, mais la manne qui va tomber chaque jour du ciel et venir sur la terre pour nourrir, on sait bien que c'est pas simplement, encore une fois, Dieu aurait fait tomber des petits pois, des haricots verts et du jus de pomme si c'était uniquement pour manger. Mais cette manne, elle a quelque chose de mystérieux. Et tout le peuple le sait. Vous connaissez l'histoire donc, dans Exode 16, en voyant cette manne qui tombe le premier jour, le peuple dit « manne où ?» C'est-à-dire, le mot qu'on a donné à la manne, « qu'est-ce que c'est ?» Du « qu'est-ce que c'est ?» Ça, c'est bien. Ça, c'est la grande nourriture. À la fois, ça va vous nourrir, mais il y a autre chose. Et la manne, alors, ça s'est développé, notamment donc, dans le livre de la sagesse, comme justement une des façons de parler de la parole de Dieu répandue chaque jour et que nous mangeons, et c'est à la fois, oui, nourrissant, et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de plus, hein? Alors, si vous lisez l'Exode, vous verrez ça, cette nourriture, le pain quotidien, Dieu l'appelle d'abord le pain. Je vais vous donner un lechem. Bon, ça peut être le pain, et lechem, c'est un sens plus vaste, quelquefois, c'est toute nourriture, mais d'abord le pain. Le pain quotidien, c'est intéressant. Et je fais une petite parenthèse, mais le chapitre suivant, Exode 17, vous savez, le peuple, alors, qui râle tout le temps, hein, donc ils avaient envie de nourriture solide, Dieu a fait tomber du pain. Deuxième jour, on voudrait boire, maintenant on a soif. Hein. C'est pensé quand on partait avec mes parents et mes quatre frères, et toujours comme ça, à peine parti, bon, allez, il faut arrêter, voilà. C'est un peu ça, le peuple d'Israël. Bon, mais donc ils ont soif. Et vous savez, c'est là que Moïse, sur l'ordre de Dieu, va frapper le rocher, mais avec un peuple qui dit, on ne sait pas si Dieu est vraiment avec nous, s'il est vraiment là. Et Dieu est très fâché, et Moïse dit au peuple, ben, vous avez vraiment tenté Dieu, et c'était odieux, hein, vous avez tenté Dieu, et oui, mais c'est un convocateur. Et c'est très intéressant, hein, et le lieu va s'appeler désormais le lieu tentation, hein, Massa. Hein. Donc, le chapitre avant, Dieu donne le pain quotidien, et le jour suivant, il y a un lieu dit qui s'appelle Tentation, où il ne faudra plus jamais entrer. Ça ne vous rappelle rien? Donne-nous notre pain de chaque jour et ne nous fais pas entrer en tentation. Hein, tout le Notre Père est fondé, est enraciné, essentiellement, pas seulement, mais essentiellement, dans le livre de l'Exode et dans les scènes de manger et boire. Vous voyez? C'est très, très, très important, ça. En plus, Moïse, dans le Notre Père, on appelle Dieu Père, le premier personnage et le seul dans le Pentateuque qui appelle une fois Dieu Père, c'est Moïse. Vous voyez, donc on est dans le Notre Père, dans toute cette ambiance de l'Exode, où qu'est-ce qu'on va manger, qui va nous donner à manger, qu'est-ce qu'on va boire, qui nous donnera à boire, et qu'est-ce que c'est exactement la nourriture, la manne que Dieu nous donne, est-ce que c'est juste pour manger ou plus? Est-ce que c'est sa parole? Et ça, c'est sans doute ça aussi, etc. Vous voyez, donc le Notre Père est lourd de tout ça. Ce qui sort de Dieu, en quelque sorte de la bouche de Dieu, et qui vient remplir la nôtre. Donc il y aurait là-dessus aussi beaucoup à dire, beaucoup à développer. Je vais dire une dernière chose sur... je peux parler toute l'heure ou il faut arrêter un moment pour les questions? Pas sans trop. Très bien. Alors, je voudrais dire une dernière chose là-dessus. Hein, donc, vous retrouverez ça dans les pages si jamais vous voulez. Mais Il y a dans beaucoup d'histoires bibliques, notamment dans ce qu'on appelle, vous savez, les premiers prophètes, une fois qu'on est sorti de la marche au désert et qu'on va entrer dans cette fameuse terre promise, le thème du pain va rester très vivant. Le pain, comment manger, comment faire dans cette terre où on arrive, avec beaucoup de textes très précis, et c'est là que je voudrais parler des messies mangeables. Parce que dès l'Ancien Testament, dès qu'on parle de messie, c'est lié immédiatement à l'idée que peut-être le messie est à manger. Alors c'est mystérieux, hein, quand Jésus donnera son corps et son sang, ça vient pas, c'est pas une idée qu'il a eue comme ça. Ça vient de très 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 loin dans la Bible. Vous voyez, celui qui sort de la bouche de Dieu est là pour nourrir un peuple. Est-ce que ce n'est pas une définition du Messie? Ah, mais il ne sort pas de la bouche de Dieu. Faut voir. Parce que Dieu, il peut mettre dans la bouche de son Messie tout ce que lui, Dieu, porte de vie, de vérité. Et voilà. Alors, plutôt que faire de parler comme ça un peu dans le vide, je vais parler d'habitude des messies. Le premier roi messie, j'aurais d'autres choses à dire sur Samson par exemple, mais bon, passons au messie dans le premier livre de Samuel. C'est à partir du chapitre 9. Vous savez que le peuple, au chapitre 8, 1 Samuel 8, a réclamé un roi, alors que Dieu avait dit, c'est moi votre roi, mais non, on veut un roi comme les autres nations. Vous voyez toujours cette tentation, cette tentative, il faut être comme tout le monde, parce que merde quand même. Oui, Dieu c'est bien, mais voilà, on veut un roi. Bon, ok, Dieu dit, je vais leur donner un roi, et le premier, ça va être le roi Saül. Vous vous souvenez de cette histoire, c'est 1 Samuel chapitre 9, donc c'est un grand garçon, c'est très intéressant, c'est un texte que j'ai beaucoup travaillé, ce début de Saül. Vous savez comment commence l'histoire, c'est un fermier d'Israël qui s'appelle Kish, bon ça j'y peux rien, mais ça n'a pas de connotation culinaire. Moi j'aimerais pas un peu Kish, bon, mais ça c'est... oui, on va pas en faire un fromage. Pardon. Non, mais mon autre vocation, c'est sketch, moi, donc c'est pour ça que je vais. Mais jetons un voile public sur ce passé glorieux. Donc, Kish envoie son fils, parce que des ânesses de sa ferme sont parties, sont perdues, et il envoie son fils avec un compagnon, un gars de la ferme, pour chercher les ânesses. C'est toute une histoire. Moi, j'ai donné ça un jour, on a traduit ça en hébreu avec des étudiants, et ils m'ont dit, on a fait de l'hébreu pour traduire des trucs comme ça, enfin, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ben justement, pour moi, c'est un des textes, le texte messianique peut-être le plus important de l'Ancien Testament. Donc, le père, Kish, envoie son fils retrouver un troupeau perdu. Le fils, donc avec un compagnon pendant le chemin, passe 3 jours et 3 nuits sans les retrouver. Et le troisième soir, ils arrivent dans une ville où ils sont invités à manger par le prophète Samuel, et ils mangent tous les trois alors que le jour baisse et que déjà le soir tombe. Ça vous rappelle rien ? Donc les évangiles sont bâtis sur cette histoire, en partie ou totalement, sur cette histoire du premier Messie qui doit ramener à son père un troupeau, pensez à Jésus aux disciples, petit troupeau, mon père vous attend, etc. Bon, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Si vous avez 18 heures devant vous, on peut étudier un petit peu plus 1 Samuel 9, mais on ne va pas le faire tout de suite. Et il ne va jamais retrouver ses ânesses, et par contre, le prophète Samuel a reçu un avis de Dieu qui lui dit, un garçon va arriver, tu lui donneras l'onction, c'est lui le premier roi messie d'Israël. Voilà. Donc c'est lors d'un repas, et lors de ce repas, donc le soir, Samuel, Saül et son compagnon, on amène à Saül un morceau spécial que le prophète, qui savait que ce garçon, Samuel, allait arriver et qu'il faudrait lui donner l'onction. Donc, le prophète Samuel a mis de côté un morceau de viande, un gigot, qui est en principe ce qu'on donne aux prêtres lors d'un sacrifice. Il y a une part pour Dieu, une part pour l'offrande, une part pour le prêtre, c'est le gigot. Et on dit dans le texte, alors c'est jamais traduit, puisque l'on ne traduit jamais les textes exactement, parce qu'on croit savoir ce qu'ils disent, mais on dit que on apporta le gigot, la part de gigot, et tout ce qu'il y a au-dessus. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors ça veut dire une pièce de gigot, puis un peu plus, hein, comme je le bouche, il y en a un peu plus, mais je vous le mets quand même. Or, ça, le gigot, et ce qu'il y a au-dessus, cette expression est déjà apparue quand on nous a décrit Saül tout de suite. Donc au verset 2 ou 3, au verset 2, de 1 Samuel 9, de notre chapitre. On dit que Saül était beau, grand, tellement grand qu'il dépassait le peuple des épaules et de tout ce qu'il y a au-dessus. Exactement la même expression, qui est très rare, parce que d'habitude on dit qu'il était plus grand que tout le monde, tout simplement. Qu'est-ce que c'est des épaules et ce qu'il y a au-dessus? Et on lui amène le lendemain, par un prophète inspiré, qui sait qu'il va devenir Messie, ce Saül, un gigot et tout ce qu'il y a au-dessus. La même expression décrit la nourriture et le Messie. Ça ne vous rappelle rien, ça? Ça nous met, ça veut dire que le Messie, il doit devenir mangeable. C'est-à-dire, il est livré corps et âme à l'action de Dieu pour son peuple. Il doit être nourrissant comme une part de viande roborative que Saül a reçue. Et on va avoir la même chose pour le Messie suivant, David. Il va y avoir des tas de choses, plusieurs, dès que David, qui va devenir le deuxième Messie, hein, Saül, ça ne va pas marcher du tout, donc Dieu va susciter un nouveau Messie, Saül, David. Et vous savez, David, chapitre 17 de 1 Samuel, donc pas longtemps après, c'est David et Goliath. Donc David a reçu l'onction, personne n'a vraiment moufté dans sa famille. Ses grands frères sont à l'armée. Le père de David, Jessé, dit à David, tiens, va porter de la nourriture à tes frères. Vous voyez, le Messie porteur de nourriture, c'est très... David, c'est ce qu'il fait d'abord. Donc il va porter de la nourriture à ses frères à l'armée. Et puis il y a Goliath, vous savez, qui dit « Il faut que l'un de vous, le plus fort d'Israël, vienne combattre contre moi. » Alors pendant 40 jours, il fait ça et aucun soldat ne se désigne dans l'armée d'Israël. C'est un texte très drôle, très amusant. Et en même temps, ce texte est pour moi le traité du messianisme fondamental de la Bible. Bon. Et David arrive avec ses tartines pour ses frères, donc porteurs de pain. Et vous savez toute l'histoire. Bon, finalement, il se désigne lui-même pour aller combattre Goliath. Et Goliath le voit arriver et dit à David, « Approche-toi donc de moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » C'est-à-dire, je vais te tuer et ton cadavre va rester là et les bêtes viendront le bouffer. Le Messie mangeable, tout de suite, la première chose que dit, souvent dans la Bible, c'est ça. C'est ceux qui sont les plus éloignés qui pigent quelque chose, pas vraiment, pas complètement, mais les paroles qui vont dire, c'est ça, ce mec est à manger. Donc, et ça va être tout un thème de David, quand il va, vous savez, devoir fuir Saül, qui est toujours roi en place et qui veut le tuer, pour David, il pense que c'est un rival, et David s'enfuit avec des gens derrière lui. Et vous savez, la première chose que David doit faire chaque jour avec ses 200 types qui se sont ralliés à lui, c'est trouver de la nourriture. Il va y avoir plusieurs épisodes, trouver de la nourriture pour ceux qui sont avec le Messie. Vous vous souvenez quand il va, peut-être on en a parlé aujourd'hui, je ne sais plus, ou alors était-ce à table, je ne sais plus, mais quand David, au chapitre 21 du premier, non, c'est quand on prépare la messe. 1 Samuel 21, David va dans un petit sanctuaire de campagne, sanctuaire de Nob, et dit au prêtre, est-ce que tu aurais de la nourriture? Et le prêtre dit, mais tu es qui, David? Pourquoi Alors David ment, hein, le mensonge est très important parfois pour. Il dit oui, je suis envoyé spécial par le roi Saül, je ne peux rien dire. Le prêtre dit d'accord. Alors que non, il fuit Saül avec 200 campins derrière lui qui ne savent pas quoi faire de leur peau, mais qui se sont ralliés à David. C'est, d'ailleurs, pour moi, c'est. Je vais demander à un étudiant qui travaille là-dessus, que je dirige, c'est quoi l'ecclésiologie, l'église du Messie dans l'Ancien Testament? C'est un mec qui apparaît comme David, puis tous ceux qui ne savent pas où se caser, le suivre. Et ça, c'est l'église. Bon, mais. Non, mais ça veut dire. C'est des textes très intéressants parce que ça évite la grandiloquence immédiate. Pourquoi on suit le Messie? Ben parce que lui, il a l'air d'être un peu. De vouloir faire quelque chose et nous on ne sait pas quoi faire de notre peau. C'est très intéressant ça. Il faut lire 1 Samuel 22, verset 1. Tous ceux qui n'arrivaient plus à payer leurs impôts, tous ceux qui ne trouvaient pas de travail, tous ceux qui ne savaient pas quoi faire en Israël, se rallièrent à David. Ça, le Messie. Voilà ce que c'est qu'un Messie. Voilà qui ça attire. Il faudrait y penser, quelquefois, dans l'Église. Bon, on a souvent envie de dire ça, mon Seigneur, mais vous n'êtes pas un gars qui n'arrive pas à payer ses impôts et vous suivez le fils, mais non, il faut être un peu plus, je ne sais pas, ou un peu moins, un peu plus, voilà. Mais je tombe la voile publique sur ce passé glorieux, encore une fois. C'est l'avocat du sapeur Camembert qui dit ça. J'ai retenu, c'est une phrase de vie pour moi. Donc, David est suivi par des hommes et il doit trouver à manger, donc il va au temple de Nob et. Le prêtre lui dit, écoute, je ne peux pas te donner à manger, il n'y a que les pains réservés à Dieu, hein, c'est ce qu'on appelle les pains de proposition, ils sont mis devant le Saint des Saints, et seuls les prêtres peuvent les manger au bout d'une semaine. Et au bout d'une semaine, ils font une nouvelle cuisson de pain, 12 pains pour les 12 tribus, qu'on met devant le visage de Dieu, enfin, le visage mystérieux et invisible de Dieu, et au bout d'une semaine, les prêtres mangent ce pain consacré, et refont du pain, mais il n'y a que les prêtres. Et le prêtre dit, écoute, je ne peux te donner que le pain consacré à Dieu pour que tu donnes ça à tes hommes. Vous voyez, par le Messie, le pain de Dieu devient le pain des hommes. Bah, l'Eucharistie, c'est un truc qui peut avoir avec ça. Donc, des textes quand même du 7e siècle avant notre ère, il y a des petites choses auxquelles ils ont pensé. Donc, vous voyez, David, j'ai donné ta chair à manger, dit Goliath, le Messie mangeable, et le Messie, chercheur de pain, chercheur de nourriture, pour nourrir un peuple qui fait ce qu'il peut, mais qui n'est pas le haut du pavé, et qui s'est attaché à lui. Et on pourrait multiplier les exemples, hein. C'est très, ça se déploie beaucoup plus que ce que j'ai dit là. Il y a beaucoup plus d'exemples autour de Saül et de David. Je dis juste un truc pour le. Oui, quand même, pour conclure, sur David, sur Saül. Je reviens à Saül, les tout débuts. C'est le chapitre 10, 1 Samuel 10. Il reçoit l'onction de la part de Samuel. Donc je reviens un peu en arrière, mais ça sera une sorte de conclusion. Donc Saül revient chez. Et reçu par le prophète Samuel. Et le lendemain matin, le prophète Samuel dit, j'ai quelque chose à te dire. Donc tu laisses passer ton serviteur qui t'accompagne, et moi j'ai quelque chose à faire avec toi. Et Samuel donne l'onction à Saül. Donc il renverse un pot d'huile sur la tête. J'aimerais bien qu'on fasse ça pour l'onction des évêques, le pot d'huile. Vous mettez une litre après, on ne voit rien pour faire. Non, absolument, c'est mon aspect un peu. Bon. Non, mais j'ai des comptes à régler avec les évêques. Comme je disais hier pour les histoires d'abus, j'ai écrit à 17 évêques et j'ai eu 17 non-réponses. Donc, j'ai quand même envie de poser des questions. Tout ça reste entre les deux bons temps. Mais rien des coupiers au plus qui se quand même, mais bon, voilà. Donc, David, Saül reçoit cette onction, donc chapitre 10, hein, le tout début du chapitre, et le prophète Samuel lui dit, et c'est une sorte de noviciat auquel il l'invite, tu vas rentrer chez ton père, vous voyez, le Messie qui revient chez le père, c'est un thème obsessionnel de ses livres, et avant de rentrer, tu vas faire 3 étapes. Et ces 3 étapes, et je m'arrêterai là, sont absolument essentielles. Et pour notre sujet, d'abord, tu vas aller au tombeau de Rachel. Rachel, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Saül, femme stérile, qui a enfanté un premier fils, puis un deuxième en mourant. Vous vous souvenez, Benjamin. Elle a enfanté, c'est Genèse 35. Rachel, la stérile qui enfante pour la deuxième fois et qui meurt en enfantant ce deuxième fils, Benjamin, aux abords de Bethléem. Vous voyez, quand on parle de Noël, qu'est-ce qui se passe à Noël? Depuis longtemps, c'est la vie où naissent les petits garçons de manière étonnante. Bon. Donc, Benjamin, c'est lui qui va fonder la tribu de Benjamin quand il sera grand, d'où descend Saül. Saül, il est de la tribu de Benjamin, c'est un lointain descendant de ce Benjamin. Donc le tombeau de Rachel, c'est le tombeau, il est assez spécial dans Genèse 35, puisqu'il rappelle, et il y a quelque chose qui rappelle ce monument dans le texte, c'est un tombeau qui nous raconte qu'un fils est né d'une femme en train de mourir, mais le fils est né. Et donc le tombeau de Rachel rappelle autant la mort de la mère, Rachel, que la naissance du fils. Donc premier pas du premier Messie, aller au tombeau qui paradoxalement rappelle la vie. Bon. Puis Samuel dit à Saül, tu vas faire une deuxième étape dans ton retour chez ton père. Tu vas voir un moment, il y a des gens qui vont à un autre sanctuaire, à Bethel, pour adorer Dieu, et ils apportent à Dieu du pain, du vin, tiens, et des animaux à sacrifier. Et ils vont te partager le pain qu'ils réservent à Dieu. Vous voyez, le Messie qui reçoit le pain de Dieu pour nourrir les siens. Étonnant. Et troisième étape, dit Samuel, en arrivant dans la banlieue de ta petite ville, tu vas voir des prophètes qui vont prophétiser autour de toi, qui vont chanter, danser, jouer de la musique, et l'Esprit du Seigneur va descendre sur toi. Le pain de Dieu qui devient le pain des hommes, le tombeau qui annonce paradoxalement la vie, et l'Esprit qui descend. Ça ne vous rappelle pas des petites choses, ça? Bon, c'est la constitution des évangiles autour de la figure du Messie. Le pain que donne le Christ, c'est le pain qu'on mange, mais c'est son corps pour donner la vie. Le tombeau dans lequel il est mis, en fait, c'est un tombeau paradoxal qui va nous rappeler plutôt la vie, la résurrection de celui qu'on a mis dedans et qui en est sorti. Et puis l'Esprit qui va descendre dans la continuité de ces deux premiers événements. Donc vous voyez, autour de la nourriture, le pain donné, ou de la vie difficile, la femme morte en couche, c'est là les lieux de la Bible où Dieu attend. C'est-à-dire la nourriture difficile qui va un jour être donnée, et qui est peut-être le pain venu de Dieu lui-même, la vie qui va gagner sur la mort, et puis l'Esprit qui va te mettre dans une nouvelle dimension de ton humanité avec Dieu, hein, et cet Esprit qu'on reçoit sur soi, mais aussi en soi, comme dit la sagesse, hein, il entre par la bouche pour nous faire parler et vivre de la parole et de la vie de Dieu. Merci de votre attention.
On vous laisse, comme d'habitude, 2-3 minutes pour, pour digérer. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser ou est-ce que vous êtes rassasié à quel point des paroles?
J'ai un contraste saisissant entre le jaillissement de votre intervention et le formalisme qui préside à nos eucharisties. Le petit doigt du prêtre qui doit poser sur le linge, etc. C'est époustouflant la distance qu'il y a entre les deux.
Oui, je ne sais que dire. Alors, c'est vrai que je pense quand on légifère, etc., pour ces gestes, peut-être vous n'entendez plus. Vous voulez que je parle plus fort? Vous entendez comme ça? Bon, je demande le micro peut-être dans la main. Prendre le micro dans la main. Oui, je pense que quand on légifère tout ça, on met des normes parce que ça peut devenir tout et n'importe quoi. Alors je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Cela dit, je suis quand même assez d'accord. Parce que je vis dans un couvent et il y a toutes sortes de frères qui viennent de toutes sortes de traditions. Quelquefois, ben là, je viens de passer quelques années avec certains qui avaient des normes assez strictes. C'est vrai que ça manque un peu de... Alors, comme c'est des prêtres hommes, je dirais un peu de virilité. Voilà, non, c'est, vous avez raison. Et je pense que c'est pour ça aussi que la Bible est importante à lire. C'est-à-dire pour revenir aussi dans notre gestuelle générale, hein, le prêtre, et puis peut-être la messe, etc., à cette consistance des choses, le pain, le vin, le corps présent, etc., qu'on perd un peu de vue. C'est vrai que quelquefois dans les églises on est là, c'est comme si chacun s'excusait d'avoir un corps. Peut-être comme si je n'en avais pas. Et c'est vrai, il y aurait sans doute quelque chose. Alors, on est obligé quelquefois, ben, ça m'est arrivé de dire la messe où il n'y avait que du pain en tranche et du gros pain, ça m'arrivait encore. Oui, là on retrouve un peu le goût, le goût du pain et de ce que c'est que l'Eucharistie. Et puis un vin qui soit vraiment un vin et pas une petite pichelette de vin blanc hyper sucré, c'est vrai. Donc en tout cas, il faut continuer à poser la question et ça peut un peu donner du vigoureux. Vous avez raison, il faut continuer à le dire.
Votre propos est lié, je pense, à quand même un peuple qui était rural, paysan. Donc, moi je me dis, parler comme ça permettait aux gens de se retrouver. Mais aujourd'hui, dans un monde moins rural, un peu plus hors sol, comment ça peut passer? Et puis l'autre chose, c'est que vous avez plutôt présenté les choses d'une façon liée à la parole, alors qu'il y a beaucoup de choses qui lient à alimentation et sacrifice, manger et sacrifice, qui est peut-être moins aujourd'hui, qui est peut-être un peu violent aujourd'hui, si on part comme ça. C'est quoi cette notion de sacrifice avec la bouffe?
C'est bien, il y a beaucoup de choses.
C'est bon,
la première chose, excusez-moi, la
monde
rural, pardon, excusez. Alors, je pense que, oui, on a un peu perdu ça de vue, dans nos pays du moins. Moi j'ai travaillé 3 ans dans le quart monde, c'est quand même des textes qui parle, le Christ qui donne de la nourriture, ces histoires-là dont j'ai parlé avec des personnes qui avaient du mal à manger, etc. Ça leur disait quelque chose quand même. Et alors peut-être c'est bien parce que c'est aussi un mouvement, je ne sais pas si on en, vous en parlerez pendant ces jours, mais il y a quand même une redécouverte du manger aujourd'hui, même dans nos pays. On a parlé ce matin, c'était très intéressant, le jeûne, qui est à la fois, j'ai fait une semaine de jeûne l'an dernier avec un groupe comme ça. C'est à la fois une manière de sortir de la nourriture, de retrouver une certaine dimension de l'être qui n'est pas simplement rivé à absorber, etc. On redécouvre des choses de son corps, mais aussi on redécouvre la nourriture autrement. Après une semaine de jeûne, il y a la semaine pour se refaire peu à peu, mais aussi pour peut-être considérer la nourriture autrement. Et donc, il y a, dans cette nourriture qui paraît si évidente pour nous, le fait d'en parler, d'organiser des semaines de jeûne qui marchent beaucoup, enfin, il y en a beaucoup aujourd'hui, en régime chrétien ou pas, ça veut dire qu'on cherche aussi à retrouver qu'est-ce que c'est que cette nourriture qui arrive dans nos assiettes comme ça, sans qu'on n'y pense plus, qui arrive donc pour beaucoup pas si facilement dans les assiettes que ça. Moi, je suis d'une famille où on n'avait pas de sous et je sais que gâcher le moindre truc, c'était pas possible. Et donc peut-être il y a des voies nouvelles aujourd'hui pour redécouvrir ça. Et puis il y a beaucoup de pays qui nous appellent avec des gens qui viennent parce qu'ils meurent de faim. Et alors c'est très compliqué, etc. Mais enfin, je crois qu'une des raisons pour lesquelles on ne veut pas les voir, c'est nous rappeler que manger, c'est un privilège que certains ont et pas d'autres. Donc je pense qu'on est aussi dans un monde où, si j'ose dire et faire ce jeu de mots, la nourriture revient sur la table. On va en reparler à nouveau. Alors, sur la notion du sacrifice, évidemment, pour nous, c'est des choses un peu éloignées, hein, toutes ces bêtes qu'on tuait pour offrir à Dieu, etc. Bon. Entre parenthèses, il y a un numéro supplémentaire de la revue L'Histoire qui vient de sortir, hein, c'est un numéro, comment on dit ça, hors série, sur Paris. Et au Moyen-Âge, les 250 000 personnes à Paris, hein, au Moyen-Âge, avec plusieurs milliers d'animaux tués pour nourrir le Paris médiéval. Donc un Paris gorgé de bêtes qu'on tue, qu'on fait venir, etc. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais je pense que le sacrifice dans la Bible, en fait, le mouvement du sacrifice, c'est d'arriver à nous. Qu'est-ce qu'on offre de plus précieux, en fait, c'est soi-même. Hein, et le corps animal est une sorte de prête-nom, en quelque sorte, de notre propre offrande. Et ça, il faudrait revenir là-dessus aussi. C'est-à-dire, oui, il y a bien sacrifice. Alors, évidemment, c'est un mot qui fait peur. Ça veut dire quoi? Se sacrifier. Ah, elle s'est sacrifiée pour son mari, pour ses enfants. Évidemment, il y a toute ces choses, et qui ne sont pas rien, hein, qu'on dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Et qu'est-ce que ma chair, et ma chair que je nourris, a à voir avec le sacrifice? Ça veut dire quoi? S'offrir à Dieu. Donc j'étais assez impliqué dans les histoires d'abus en France pendant plus de 16 ans, ou enfin encore aujourd'hui, mais peu importe. Et ma chair en a énormément pâti. Mais comme j'ai beaucoup de travail, je m'occupais de certaines choses liées aux abus en plus, et avec un prieur qui m'avait dit « je ne veux pas entendre parler de ces histoires ici ». Bon, donc je faisais ça moi-même et sans le soutien d'une communauté. Mais c'est-à-dire, à la fin, on retrouve son corps, et son corps Alors, ça fait prétentieux ou grandiloquent de dire ça, mais on a offert en quelque sorte pour aider tout ça, mais sans avoir absolument cette idée. On a fait des trucs parce qu'ils étaient là et il fallait faire quelque chose. Mais je dirais qu'il y a des circonstances, mais dans une famille c'est pareil, des parents qui font ce qu'ils peuvent pour un enfant handicapé, puis comment faire avec les autres enfants, etc. Et je pense que le corps qui pâtit parce qu'il se donne, parce qu'il est percuté par tout ce qui peut arriver dans une vie, voilà la chair du sacrifice. Et c'est une réalité quotidienne de beaucoup. Moi, je connais une famille et on essaie de faire quelque chose de jeunes parents avec deux enfants qui n'ont pas d'argent, des Français qui sont venus en Suisse pour échapper à leur famille et justement à des abus. Et je me dis, la chair des parents, ils font tout ce qu'ils peuvent et ils s'en sortent, mais c'est dur. Ben voilà, le sacrifice, il est là, bien sûr. Et donc, c'est une réalité assez quotidienne, et que si nous sommes engagés dans ceci ou dans cela, mais même des choses, simplement être père ou mère de famille et faire ce qu'on peut, la chair, c'est ce que c'est, oui, que le sacrifice.
Merci. Je suis désolée, je prends la parole, je n'ai pas de question. Ce n'est qu'une affirmation, vous m'avez donné faim de Dieu.
Merci. Ça, c'est... Merci.
La sagesse a dressé une table, elle m'invite au festin. Le mot festin, pour moi, c'est souvent la grande bouffe, entre guillemets. Mais il n'y a pas des fois contradiction avec les problèmes alimentaires aujourd'hui?
Alors, ce que vous citez, c'est donc dans le livre des Proverbes, hein, c'est au chapitre 9, donc c'est deux chapitres centraux, la sagesse qui est une personne sortie de Dieu, hein, et qui parle, qui a été enfanté par Dieu, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc dans les Proverbes chapitre 8 et 9. Et 9, il y a ce beau passage où la sagesse nourrit. Hein. Et ce qu'elle dit, c'est ses paroles qui nourrissent. Donc on prend l'image du banquet, qui est une image très importante dans la Bible et qui désigne à l'occasion un banquet. Mais un banquet qui nous mène plus loin qu'une grande bouffe. Et quelquefois, c'est l'image, le banquet, la meilleure image qui soit, de se rencontrer, parler, Dieu étant présent. Et c'est ça le banquet de la sagesse. Venez parce que Dieu est présent, et j'en connais un rayon, dit la sagesse, enfin, elle le dit de manière plus auguste. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se dit là, c'est-à-dire on prend l'image de ce qui, pour l'Antiquité, était le repas de fête qu'on faisait trois fois dans sa vie, le grand banquet donné sans compter par un grand personnage. Et donc, c'est une image à suivre. Alors aujourd'hui, elle pose question. Donc moi j'ai travaillé dans le Carmonde et tous les dimanches on avait un dimanche et on allait à droite à gauche, il y a des gens, des entreprises, tout ça, qui donnaient de la nourriture un peu bonne, parce que l'idée c'était on va pas faire simplement des boîtes de petits pois et puis acheter du jambon bas prix, essayer de faire quelque chose pour dire la noblesse, la dignité de tout le monde, et puis la joie de manger quelque chose d'un peu meilleur que d'habitude. Vous voyez, et l'image, dire, bah, c'est l'image de la joie d'être avec Dieu, oui, c'est une image, mais c'est aussi toujours une réalité. Et c'est ça la Bible. Il y a des images qui servent à exprimer des choses, mais elles sont toujours ancrées dans du réel. Alors, je signale un beau texte aussi, c'est le livre de Néhémie, dans l'Ancien Testament, chapitre 8. on est en train de rebâtir Israël, bien après l'exil, etc. Et un jour, on lit la loi, c'est un magnifique chapitre, hein, c'est oui, Néhémie 8. On lit la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu pendant toute une journée, et tout le peuple est là, il y a des gens qui traduisent parce que la langue a un peu changé, tout ça. Et après, grand banquet, et on porte aux gens qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont malades ou ils sont plus loin, etc. C'est absolument le porter l'Eucharistie à domicile. Vous savez, c'est un peu quelque chose comme ça. Alors, on est dans l'Ancien Testament, mais c'est très beau. La parole de Dieu, ça va avec un banquet après, où tout le monde, même ceux, les absents, ben, on leur porte. Ils ont aussi leur part. Et il y aurait sur ces banquets bibliques, hein, beaucoup de choses à penser. Voilà,
ce ne sont pas des questions, ce sont plutôt des points, et merci pour vos propos très riches, et deux points particulièrement qui ont été éclairants pour moi, quand vous dites que le premier mot dans la Genèse est fructifier, et le fruit, l'enfant qui peut être fruit, et bénisse que le fruit des entrailles soit béni. Il y a aussi l'Eucharistie, que vous dites, l'Eucharistie si mystérieuse, c'est la parole qui sort de la parole qui va nous nourrir, et bon, sous forme de pain, la parole sous forme de pain et de vin. Et puis le troisième point auquel je ne pensais pas, mais au départ, c'est avec ce terme sacrifice. Par exemple, pendant la messe où je vais, il y a, c'est depuis 2-3 ans, dans la réforme de la liturgie, enfin au moins dans ma paroisse, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, trouve grâce devant Dieu. J'ai du mal, je reste assise. Alors pourquoi ? Parce que je me dis, mais est-ce que c'est un sacrifice ou pas plutôt une offrande ? Alors peut-être parce que ce terme sacrifice est très connoté et que vous devez faire des sacrifices, oui. Comme vous avez dit justement, se sacrifier. Et puis vous avez ajouté, c'est très beau, enfin, vous avez dit, le corps qui pâtit et parce qu'il donne ou parce qu'il se donne. Merci.
Merci. Oui, c'est vrai qu'il y a des mots. Je pense qu'il faut réhabiter, mais ça arrive pour tout, hein, dans la vie civile aussi, il y a des mots, on a aussi ça, le partage, la discussion, même en milieu pas du tout chrétien, il y a des mots qui font, par exemple, discussion chez nous, ça veut dire une réunion qui dure des heures, hein, je suis dans une université, un des derniers conseils de faculté a duré 8 heures, c'est pas beaucoup, je trouve, mais voilà, mais d'habitude, ils sont calmes, et ça ne dure que 6 heures, mais non, c'est invraisemblable, moi, je suis en état d'auto-hypnose, et donc, en plus, c'est vrai, mais je pense qu'il y a des mots comme ça à retrouver, à réhabiter par notre pratique. En effet, se sacrifier, et il y a tout un, sans doute un vocabulaire fossilisé depuis, je ne sais pas, la réforme, sans doute à cette époque-là, jusqu'à nous, le 19e siècle, avec tout un des mots qu'il faut dire, pas dire, ah oui, le saint sacrifice de l'autel. Alors, et oui, mais on ne dirait plus comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que c'est ça la Bible aussi, c'est redonner une chance aux mots, retrouver les textes qui le disent, et on est souvent bien, bien étonné de par exemple, le fameux psaume, alors c'est 50 ou 51 dans les Bibles. Vous savez toujours qu'il y a un verset de décrochement, etc., donc peu importe. Donc là, dans la Bible, c'est le psaume 51 dans nos Bibles, 50 dans la liturgie, qui se termine, bon, c'est le fameux psaume, là, « Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, efface mon péché, etc. » Bon, ça se termine par « Ah Seigneur, si tu faisais du bien à Sion, rebâtis les remparts de Jérusalem. » Alors, voilà, pardon, c'est le verset juste avant. Donc 51 dans les Bibles, 50 dans les Bibles liturgiques. Je lis le verset avant. « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. » Là encore, il faudrait réfléchir. « D'un cœur brisé et broyé, Dieu, tu n'as pas de mépris. » Et c'est quand qu'on vient à Dieu comme on est, avec toute la difficulté de la vie, alors, dit le verset verset suivant, c'est quand on vient avec lui, c'est, voilà, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Et après, dit le Dieu, après on peut faire des sacrifices de justice, holocauste et oblation, et on peut offrir des taureaux sur ton autel. Mais c'est comme si le psaume disait, l'essentiel, c'est toi, c'est ce que tu vis, c'est ce qui est dur, ce qui est lourd, ce que tu essaies de traverser, voilà. Le cœur brisé, ébroyé, ça ne veut pas dire le cœur brisé comme dans les chansons d'amour, hein, j'ai le cœur brisé. Ça veut dire tout ce qui nous tue dans la vie, dans la famille, dans l'État, dans l'Église, etc. C'est ça qu'on offre à Dieu. Voilà, c'est ça. Et puis après, on peut, dit le verset, faire aussi les rituels habituels qui le disent aussi liturgiquement. Mais ça part, et c'est un psaume très important, hein, ce psaume 51. Qui relativise, enfin c'est avec des guillemets, tout l'appareillage sacrificiel du temple et toute la liturgie. La liturgie a son sens par ceux qui la vivent déjà dans la vie quotidienne, des parents avec leurs enfants, et si c'est difficile, et tout ça. Voilà, c'est ça qu'on appelle avoir le cœur broyé ou brisé, ou voilà, et c'est ça qui. Et puis. Le sacrifice, on peut faire après, c'est l'autre expression rituelle et collective de ce que chacun peut vivre. Voyez, et ça, c'est très important dans la Bible, dès l'Ancien Testament. Hein, et on ne fait pas de sacrifice pour le sacrifice. On fait le sacrifice, c'est soi d'abord qu'on offre, avec ce qu'on est, ce qu'on porte et ce qu'on n'arrive pas à porter.
Oui, il y a un autre psaume. Un autre psaume dont je ne connais pas le numéro, et il y a deux versets que j'aime bien, qui disent « Mets une garde à mes lèvres, veille au seuil de ma bouche ». Alors moi je le lis assez souvent le matin parce qu'il m'arrive de raconter pas mal de bêtises, des fois pas d'être très sympa avec les gens qui m'entourent, et j'ai fait une autre lecture là, ce soir après vous avoir écouté, j'aimerais que vous m'en disiez plus, c'est « Veille au seuil de ma bouche et mets une garde à mes lèvres », c'est parce que mes lèvres, c'est ta parole en fait. Qui sort de moi quand je parle.
Oui, c'est. Il y a quelque chose comme ça. Les lèvres, là encore, hein, ça fait partie de tout le corps que la Bible évoque tout le temps. C'est très intéressant. Hein. C'est pas seulement dans l'Orient ancien, on a une autre conception du corps. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on en fait dans la Bible? Et les lèvres, c'est. Donc le seuil, hein, d'où sort la parole, et quelle parole? Est-ce que c'est une parole habitée par la parole de Dieu, ou est-ce que c'est ma parole ou celle que tout le monde dit et que je répète? Vous savez, le début de c'est le chapitre 11 de la Genèse, c'est l'histoire de Babel. Et on dit, à cette époque-là, il n'y avait qu'une seule lèvre en Israël. C'est-à-dire tout le monde dit la même chose au même moment. Construisons une tour, faisons du mortier, faisons... Et comment Dieu guérit tout ça? En mélangeant les langues. Évidemment, tout le monde, on ne va plus parler pareil. Ce n'est pas seulement les langues, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent le ch'ti, bon, c'est bon. Mais non, c'est pas ça.
Voilà.
Voilà. Et c'est est-ce que la bouche, c'est la bouche de chacun qui peut dire son avis, qui etc. Et c'est en effet, mais je garde à mes lèvres parce que est-ce que ma parole est issue de toi et de moi, hein, et c'est ça, être enraciné en Dieu. Est-ce que ma parole, hein, c'est je disais tout à l'heure Deutéronome 7. Dieu met sa parole en nous et tu parleras au moyen d'elle, au moyen de la parole de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ben, ça va formater ta parole autrement. Ça sera toujours ta parole, mais il y a un autre qui... Et c'est toute une aventure, là aussi toute une réflexion à avoir sur parler. Je dis juste un truc, il y a un mot très important dans la Bible qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament. C'est le mot parésia. La parésia, vous savez, c'est un mot grec Donc la Bible, l'Ancien Testament hébreu a été traduit en grec à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et les traducteurs ont fait rentrer un moment ce mot très grec de la parésia. La parésia, c'est la liberté de parole du citoyen qui parle dans l'assemblée du peuple. Et vous savez, en Grèce, comment ça s'appelle l'assemblée du peuple? Ça s'appelle l'ecclésia, qui donne le mot église, puisque vous savez, dans l'église primitive, on a repris les termes de la société civile pour parler de l'église. Ce serait bien d'y réfléchir aussi de temps en temps. Ah, c'est, nous sommes dans l'église, oui, donc dans une société humaine, voilà. Donc dans l'ecclésia, les citoyens ont la parésia, c'est-à-dire la liberté de parole. On peut interpeller le président, le chef, tout ça, pour dire « j'ai pas compris » ou « je suis pas d'accord ». Voyez. Et donc, il y a tout. Et la parésia, ça se fait pas comme ça. C'est pas dire n'importe quoi, n'importe quel moment, pour montrer sa mauvaise humeur ou faire étalage de son savoir. C'est toute une éducation. C'est savoir parler au bon moment pour dire quelque chose ou poser une question sur quelque chose qu'on n'a pas compris à la personne qu'il faut. Et c'est toute une éducation qui est très grecque, hein, c'est un terme où là, chez Platon, pour Socrate, qui éduque à la parésia. Et c'est le dernier mot des Actes des Apôtres. Paul était prisonnier à Rome et dans sa prison, il parlait et enseignait en toute parésia. Il est prisonnier, il enseigne en toute liberté de parole. Eh bien, il y a quelque chose, donc c'est un concept venu dans la Bible, et issu du monde grec, mais reformaté, si j'ose dire, par le propos, par le verbe divin, et c'est une chose, je pense, qu'il faut développer. J'ai écrit un peu là-dessus pour dire que c'est une notion extrêmement importante dans l'Église, pouvoir interpeller librement quelque chose qu'on a vraiment pensé ou une question qui nous reste après avoir beaucoup réfléchi, liberté de parole.
Une dernière question et après on va arrêter.
Je vais essayer d'utiliser correctement la parésia. Dans un premier temps, je vais lui demander ce que vous pensez du bénédicité. On est chaque fois en famille en train de se dire, on va le dire, on va pas le dire, quelle est la sincérité qu'on peut transmettre quand on chante la bénédicité, enfin la bénédicité traditionnelle, quoi. Quel est aujourd'hui notre pain quotidien, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bravo et merci pour votre exposé assez fantastique, qui nous donne effectivement envie d'aller piocher un peu plus dans les lectures bibliques, ce qui n'est pas mon cas, je le reconnais. Et dernière chose, je vais le dire, dans l'évangile de Coluche, verset 12, alinéa 48, qu'est-ce que vous pensez des restos du cœur comme démarche du festin en vrai, enfin entre guillemets?
Alors, le bénédicité, je ne sais pas, c'est bien si on peut le dire ou si ça vient dans une famille, pourquoi pas. Et je pense que ça peut être, vous voyez, cette petite chose qu'on essaie de faire sur le sacrifice, penser le sacrifice, le bénédicité, aller faire un tour dans la Bible pour voir ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit quand on prie Dieu pour un repas reçu, par exemple, ou quels sont les repas de la Bible. C'est bien de... Vous savez, la Bible, je dis toujours ça à mes étudiants, c'est très facile. Il y a 10 scènes types, et puis après, les scènes reviennent avec toutes sortes de paramètres. Par exemple, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bon, c'est une scène qu'on a dans toute la Bible, y compris qui intègre aussi l'Eucharistie, etc. Et vous voyez, donc il y a beaucoup de choses très simples, et je pense que les prières comme le bénédicité, ça peut reprendre vie, peut-être se transformer un peu, par une petite incursion dans les textes bibliques de repas. Demain, on lira à la messe, on évoquera une partie, par exemple, d'un texte magnifique qui est... Genèse 18, hein, Abraham qui reçoit trois mystérieux visiteurs qui vont lui annoncer qu'il aura un fils avec sa femme dans leur vieillesse, etc. C'est un texte superbe, hein, je pourrais parler longtemps de ce texte, mais je ne vais pas le faire. Donc, faire une incursion dans ces textes qui redonne une vie, et peut-être qui laisse introduire certains mots qu'on peut adopter quelquefois et adapter, et issus de ces textes. Donc, suivez les repas dans la Bible, il y en a énormément. Vous savez, les évangiles, il y a Jésus depuis le début. L'évangile de Marc, première parole à peu près, je crois, de Jésus, c'est il faut chercher du pain. Et souvenez-vous ce qu'a fait David, le Messie, quand il cherchait du pain auprès du prêtre de Nob, ce qu'on a raconté tout à l'heure. C'est la première citation biblique explicite dans l'évangile de Marc, c'est au verset 10, hein, quelque chose comme ça, c'est Jésus qui le fait. Donc voilà, reparcourir les textes bibliques pour redonner vie et couleur et sens peut-être à nos prières personnelles ou familiales. Après la Bible, il faut la lire, il faut descendre dedans, il faut y aller. Je rêve un jour d'écrire un peu un mode d'emploi, mais j'en fais un peu pour mes étudiants. Mais voilà, ça fait un peu papy ou prof, ou je sais pas, mais c'est comme ça. Et les restos du cœur, ben, je pense que, après ça, resto, d'abord, c'est bien, hein, parce que ça nous rappelle que c'est pas le problème, c'est pas les pauvres, c'est manger. Et qui va restaurer qui? Et restaurer dans tous les sens du terme. Donner à manger, mais premier sens, remettre en état, remettre en restaurer. Enfin, voilà. Et je pense que peut-être ça fait partie de toutes ces initiatives extérieures à l'Église et pas spécialement ecclésiales, mais qui nous interrogent comme chrétiens et peut-être qui attendent des partenariats éventuels à l'occasion. Merci de votre attention, en tout cas. Merci.
Je pense qu'on repart tous avec la nourriture et l'envie de nous plonger dans la Bible. Où il y a beaucoup plus à voir et à manger qu'on ne croyait. Ça va être la pause, mais juste, Jacques, tu peux venir? On ne vous a parlé hier de promesses d'église. Alors moi, vous me voyez tout le temps, peut-être trop, mais Jacques, tout le monde ne m'avait pas repéré. Donc ceux qui s'intéressent à promesses d'église, parce qu'on me dit oui, mais des barbus, il y en a beaucoup. Voilà, c'est ce barbu-là, avec la chemise à carreaux. Ah oui, si demain il met une autre chemise. Voilà, là il y a une pause, donc ceux qui veulent encore parler de promesses d'église vont voir Jacques qui est où maintenant. Bon, alors attends, pour les autres annonces, je laisse la main à ceux qui savent.
Alors, moi je ne sais rien, si ce n'est que nous sommes ici dans le Rouergue, c'est-à-dire la terre de Mgr François Marty. Vous vous en souvenez, il était cardinal archevêque de Paris, et il avait cette très belle formule avec son accent de rocal, il disait. J'ai toujours faim de Dieu. Ça nous fait manger. Nous avons à la librairie deux livres en vente de Philippe Lefebvre. Le premier, qui nous concerne directement, c'est ce que dit la Bible sur. C'est une collection. La Bible dit des choses sur plein de choses, mais là, c'est sur le vin. Ce que dit la Bible sur le vin. Alors, ça va certainement être très capiteux et succulent. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu. Par contre, je viens de l'acheter. Un autre livre d'un courage absolument incroyable, Comment tuer Jésus. C'est un peu un regard porté sur les abus dans l'Église, croisé avec la parole. Hein. Les abus en regard de la Bible, en regard de la parole. C'est un livre d'un courage monstre qui a valu à Philippe Lefebvre des foudres, des menaces, des. Enfin, ça, voilà. Hein. Ça l'écarte, donc n'hésitez pas à l'acheter. Peut-être que Philippe Lefebvre le voudra bien le dédicacer. Hein, voilà. Donc c'est drôle. Et puis, notre ami Gérard Gerdil-Margueron, ici même, là, dans le hall, vous proposera à la vente pendant la pause de l'huile d'olive palestinienne. On en a déjà parlé ce matin ou hier, je ne sais plus exactement, mais voilà. Maintenant, on peut. Et puis, Gérard me dit que pour les covoiturages, il y a sur une porte là-bas un panneau qui permet d'organiser les covoiturages. On aura l'occasion d'en reparler. Et maintenant, bonne pause. On reprend dans une demi-heure.